Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Vous êtes bien sur la radio Nzamba Agathe Kakawe. Nous sommes jeudi 23 décembre 2021. C'est le moment du journal dont voici d'abord les titres. L'explosion de grenades fait un carnage entre les 3e et 4e avenues de la zone Bouiza en mairie de Bujumbura avec 3 morts et plus de 10 blessés. L'administration indique que des enquêtes ont été ouvertes pour traquer les criminels qui jusque-là n'ont pas été identifiés. Un rapport sur la maltraitance des enfants au Burundi est en cours de confection pour permettre une meilleure protection des tout-petits. L'annonce est du président de la CNIDH que vous suivrez dans ce journal. Dans cette édition, il sera également question de la décentralisation totale des services publics à travers tout le pays. Vous entendrez à ce propos le ministre de la Fonction publique qui nous parlera du portail Internet Isoko qui permettra cette décentralisation. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Je vous le disais dans les titres, 3 personnes ont été tuées et plus de 10 blessées la nuit dernière par l'explosion d'une grenade. C'était dans une maison de projection de films située entre les 3e et 4e avenues de la zone Bouiza de la commune Mukaza à mairie Bujumbura. L'administration dans cette zone confirme ces informations et ajoute que les criminels n'ont pas encore été identifiés, tout en signalant que les enquêtes sont en cours. Parfait Moudassigana.
C'était vers 20h quand les gens qui étaient en train de regarder un film dans cet endroit ont été surpris par une explosion. 3 personnes ont rendu l'âme sur le champ et plus de 10 autres ont été blessées. Selon les informations données par des habitants proches du lieu du drame, cet endroit est caractérisé par des bagarres de façon qu'aucune nuit ne peut passer sans que des gens se disputent. Selon les mêmes sources, cela est provoqué par la consommation excessive de boissons prohibées. Ces informations précisent que même les administratifs sont au courant de ce qui se passe dans cette localité. L'administrateur de la commune Mukaza, Renova Sindayebura, indique que les salles de cinéma avaient pourtant été suspendues. Il déplore le comportement des habitants de cette localité qui n'ont pas encore mis les lampes sur leur domicile pour éclairer les routes.
Ce sont des personnes qui ont l'objectif de perturber la sécurité ou bien même de piller, car c'est un endroit très fréquenté. Notre constat aussi est que les habitants de cette localité n'ont pas suivi notre recommandation de mettre des lampes sur leurs clôtures. Nous saisissons cette occasion pour exhorter les administratifs à la base, dans cette zone, de faire respecter la mesure d'éclairer ces endroits obscurs, car si l'endroit était éclairé, l'attaque n'aurait pas eu lieu.
De leur côté, les habitants demandent plutôt aux instances habilitées le renforcement de la sécurité dans cet endroit. L'administration à la base, qui confirme toutes ces informations, ajoute que les malfaiteurs ne sont pas encore identifiés, mais qu'une enquête est déjà en cours. Ce jet de grenade dans la zone Bouiza vient s'ajouter à une autre attaque à la grenade perpétrée il y a plus d'un mois à côté du marché de Jabé, en face du domicile de l'ancien administrateur, faisant 2 morts. Et 5 blessés.
Autre lieu, autre drame. 2 personnes sont mortes la nuit de ce mercredi à jeudi sur la colline Ruganigwa dans la province de Muyinga. Il s'agit d'un couple qui s'était disputé. Le mari a tué à l'âge son épouse et s'est par la suite donné la mort par suicide. Son corps a été découvert ce jeudi matin. Le point avec Jean-Marie Ndabashinze.
Spencer Ndagijimana habitait la colline Ruganigwa, zone Chumba, en commune province Muyinga. Elle a été tuée la nuit de mercredi à jeudi à coup de hache au niveau de la tête par son conjoint, selon les informations recueillies à Ruganigwa. Selon la même source, le couple rentrait du bistrot où il partageait un verre en toute quiétude et tout a tourné mal à l'arrivée à la maison. Notre source ne donne pas aucun détail sur les modalités qui auraient poussé Nagaholaho à tuer sauvagement son épouse avec laquelle il avait eu cet enfant. L'entourage connaît la victime comme une femme correcte avec tout le monde, renchérit notre source. Après le meurtre, Nagaholaho a précipitamment quitté son domicile pour se réfugier dans un marais se trouvant tout près de chez lui avant de se suicider. spéciaux Ndagijimana est la troisième femme tuée en province de Muyinga à l'espace d'un peu plus d'une semaine.
Et puis, le phénomène de maltraitance des enfants existe bel et bien au Burundi. Le constat est de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la CNDH, qui affirme être en train de confectionner un rapport qui permettra au gouvernement de mettre en œuvre des politiques visant à décourager tous les abus dans la protection des droits de l'enfant. Écoutez, Sixte Vigny Nimuraba, président de la CNDH, il s'exprimait ce matin lors d'une réunion de validation d'une étude faites sur cette problématique.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Suite de cette édition, l'entrée de la République démocratique du Congo dans la communauté des États d'Afrique de l'Est aura un impact positif sur le plan sécuritaire dans les pays membres, dont le Burundi. Analyse du chercheur politologue Gérard Bilan-Namidje, elle permettra, selon lui, une gestion commune de plus de 100 groupes rebelles présents dans la région, y compris les groupes rebelles burundais. On écoute Gérard Bilan-Namidje.
Nous savons que l'Est du Congo est toujours soumis à des tourbillons, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements, des rébellions armées qui sont liées à la géopolitique sous-régionale. Je pense que l'entrée du Congo à l'Est African Community permettrait, bien évidemment, sur le plan de l'Est African Community, de pouvoir penser comment gérer cette question, mais aussi pour ce qui est du Burundi et du Congo, étant donné que l'insécurité du Congo fournit un flux de réfugiés au Burundi, et fournit un flux de criminels aussi au Burundi, et vice-versa, lorsqu'il y a insécurité au Burundi, il y a des flux de réfugiés, il y a des flux aussi des criminels qui se cachent dedans, qui entrent sur le territoire congolais. Donc, l'entrée peut-être permettra de créer une forme d'osmose dans la gestion de ce problème sécuritaire, notamment en mettant en place une forme de sécurité sous-régionale qui permettrait évidemment d'en découdre avec cet état de fait. Donc voilà globalement ce que je peux dire sur cela.
Et sur le plan économique, l'Est de la RDC constitue un vaste marché de plus de 10 millions d'habitants. Gérard Bilan-Namidje explique que les opportunités sont nombreuses, autant pour le commerce transfrontalier que pour le tourisme, ainsi que la pêche via le lac Tanganyika. On écoute encore une fois Gérard Bilan-Namidje.
Sur le plan économique, l'entrée du Congo dans l'East African Community aura un impact significatif. Dans le domaine économique. D'une part, le Congo, c'est plus de 89 millions d'habitants et l'Est du Congo qui est contigu au Burundi, on y retrouve plus de 10 millions d'âmes. Donc, sans doute qu'il y a une demande, sans doute qu'il y aura des échanges et ces échanges vont booster nos économies respectives. Alors, autre chose, c'est que le Burundi et le Congo, avec la frontière commune, une grande partie constituée par le lac Tanganyika, eh bien, par rapport à cette opportunité, les deux pays peuvent, par exemple, organiser la pêche commune sur le lac Tanganyika et booster l'industrie poissonnière. De même, les deux pays peuvent aussi se mettre ensemble pour organiser l'industrie touristique sur le lac, au bord du lac, et même suivant les autres opportunités que chaque pays offre, en promouvant par exemple une sorte de visa d'entrée unique. Cela permettrait de booster l'industrie touristique des pays parce que un touriste qui viendrait au Congo aurait aussi un visa pour entrer au Burundi et vice versa. Bref, c'est une aubaine pour les deux pays. Ils peuvent s'engager sur de nouvelles pistes en termes de développement économique.
On rappelle que le 18e sommet des chefs d'État des pays membres de l'EAC, qui s'est tenu hier par visioconférence, a recommandé au Conseil des ministres de ces pays de conclure le dialogue avec la RDC pour finaliser son intégration dans la communauté est-africaine. Nous en profitons pour rectifier que l'entrée de la République démocratique du Congo n'est donc pas encore effective, contrairement à ce qui a été dit dans nos éditions d'hier. Veuillez bien nous en excuser. Et puis, les réfugiés burundais vivant dans différents pays de la région ne sont pas prêts à répondre favorablement à l'appel du vice-président de la République. Prosper Bazombanza leur a demandé de rentrer, arguant que la sécurité est totale au Burundi. C'était hier lors du sommet des chefs d'État de l'EAC. Mais ces réfugiés indiquent que la sécurité qui les a poussés à fuir leur pays est toujours d'actualité. Ils demandent aux autorités burundaises de sécuriser tout le pays avant toute autre chose. Suivez-les.
Pour nous les réfugiés, cette paix n'est pas totale. Qu'est-ce qui montre que cette paix est totale? D'autant plus que nous observons chaque fois des cas de disparition, cas de morts, cas de gens qui sont torturés dans les cachets de leur documentation, alors que les messieurs qui sont rentrés volontairement sont portés disparus, d'autres sont emprisonnés. La paix qu'ils disaient, ce n'est pas une paix pour nous. C'est une paix pour lui, mais pour nous, la paix au Burundi est loin d'être installée.
Tu veux dire que nous sommes tous les Burundi, nous sommes tous les Burundi, nous sommes tous les
La sécurité n'est pas garantie au Burundi pour que les réfugiés puissent rentrer, car nous savons qu'il y en a ceux qui ont rentré, mais qui ont été emprisonnés, frappés, voire même tués. Une situation qui s'observe toujours au Burundi, que les autorités sécurisent tout le pays. Si c'est le cas, il n'est même pas important d'appeler les réfugiés à rentrer. Ils le feront de leur propre gré. Mais prendre le micro et demander aux réfugiés de rentrer, c'est se tromper, car la situation qui règne au Burundi ne peut en aucun cas attirer les réfugiés à rentrer.
Le jour où un réfugié a pris la décision de quitter le Burundi, il n'a averti personne, sauf les leurs, en disant qu'il quitte le Burundi pour sauver la vie. C'est-à-dire le jour où il va se sentir que la paix règne au niveau de son pays natal, il va retourner à sa propre volonté. Il faut plutôt prendre les efforts au niveau de la politique pour assainir la sécurité, punir d'une façon exemplaire les personnes qui violent toujours le droit de l'homme. Il faut plutôt les sanctionner et de prendre toute personne au même pied d'égalité.
Inzamba. Beaucoup de recettes issues des infrastructures de l'État ne parviennent pas au ministère des Finances. C'est ce que fait savoir Domitien Ndihokubwayo, ministre burundais des Finances. Il l'a dit ce jeudi lors d'une visite des bâtiments de l'État érigés dans différents espaces. Le ministre et l'Office burundais des recettes ont constaté qu'il y a des personnes non identifiées qui utilisent ces bâtiments. Cette visite permettra à l'OBR de suivre sans difficulté ceux qui utilisent les bâtiments de l'État et surtout qu'ils s'acquittent correctement de leurs obligations. Suivez le ministre des Finances.
Nous avons effectué une descente sur le terrain, une descente qui a été faite en deux volets. Et premièrement, nous avons visité le chantier où sont en train d'être érigées les constructions ou les bâtiments qui vont abriter les services de l'Office burundais des recettes. Depuis un certain temps, le gouvernement du Burundi a adopté la politique de se construire les bâtiments administratifs. Et l'Office burundais des recettes a été privilégié et a été doté de moyens financiers et d'un terrain pour pouvoir construire. Donc aujourd'hui, nous avons visité l'état des lieux de ce chantier-là et nous avons vu que les travaux avancent normalement compte tenu du temps qu'ils ont déjà fait pour construire. Mais nous avons aussi constaté qu'il y a des problèmes, ou je dirais des petits défis. Premièrement liés aux voisins qui ont dépassé les bornes pour construire dans le terrain de l'Office burundais des recettes. Après cette visite du chantier, nous avons effectué deux autres visites. Premièrement, une visite qui a été effectuée dans un endroit que nous soupçonnons appartenir à l'État, mais où les activités qui sont faites là-bas ne sont pas renseignées au niveau du ministère des Finances. Et surtout, les recettes qui sont issues de la collecte des loyers ne sont pas renseignées au niveau du ministère des Finances. Et deuxièmement, nous avons aussi visité ici au niveau du musée vivant. Nous constatons qu'il y a des kiosques qui sont érigés là-bas, voire même des cabarets, et qui sont, je ne dirais pas loués, mais où les occupants de ces kiosques donnent une certaine contribution pour l'entretien. Mais là aussi, nous constatons que l'argent qui est collecté va à un compte qui n'est pas renseigné au niveau du ministère des Finances. Nous avons été accompagnés par les agents de l'Office burundais des recettes, mais aussi quelques agents du ministère des Finances, pour pouvoir leur montrer que réellement, il y a des recettes qui ne sont pas correctées par les voies qui sont autorisées, et que l'Office burundais des recettes devrait s'apprêter à réellement passer à l'action pour collecter toutes ces recettes et les faire rentrer dans le compte général du Trésor.
Et pour terminer, à partir de l'année prochaine, des guichets uniques pour différents services de l'État seront mis en place dans toutes les provinces du pays. Assurance donnée par le ministre en charge de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Tade Ndikumana, tenu à préciser que ces guichets sont déjà disponibles dans 10 provinces du pays. C'est dans le but de décentraliser les services publics, il a déclaré lors d'un atelier de vulgarisation du portail internet Isoko. Isoko étant le réseau internet d'accès aux informations sur les procédures administratives et autres réformes. Je vous propose de suivre Tade Ndikumana, ministre de la fonction publique.
Le portail Isoko émane des actions, des 35 actions du programme national d'administration pour la réforme administrative, PNRA, qui a été financé par le gouvernement et appuyé par le PNUD. Et comme vous l'avez vu dernièrement, nous avons effectué des descentes sur le terrain dans différentes provinces pour voir l'état des lieux des guichets uniques qui ont été mis dans 10 provinces, bientôt dans 12, au service de la population pour réduire le coût et le temps et que la population mettait pour avoir des documents, et que ce soit l'excès du casier judiciaire, les permis de conduire et autres. C'est une des actions du PNRA qui a été concrétisée et nous comptons continuer pour aller dans 18 provinces. Mais aussi, nous avons vu que la fonction publique est décentralisée au niveau provincial. Nous comptons aller jusqu'au niveau communal. Alors, le portail Soko contient beaucoup d'informations, plusieurs informations relatives aux services et de l'administration dans les différents ministères et pour que la population puisse s'en imprégner et l'utiliser. Parce que ce portail est un outil idéal pour ne pas dépenser beaucoup d'argent, mais aussi s'atteler aux travaux de développement. Il renferme beaucoup d'informations. Même si le portail Soko a été mis sur pied, il n'est pas connu par les usagers. C'est dans ce sens que nous avons voulu réunir les différents directeurs des ressources humaines de tous les ministères pour qu'ils puissent constituer le relais, mais aussi pouvoir alimenter, mettre à jour ce portail. Aussi, nous avons voulu associer les femmes et les hommes des médias pour qu'on puisse vulgariser ce portail qui a un intérêt capital par rapport à la population. Et nous aurons l'occasion de pouvoir réunir les hommes et les femmes des médias pour pouvoir leur montrer comment vulgariser cet outil pour qu'il soit utilisé efficacement par la population. Ça va rentabiliser les services. Les gens vont avoir toutes les informations au niveau des services de l'administration publique étant au travail à travers les TIC. Le portail est disponible en langue nationale, française, anglaise, mais aussi est disponible pour chaque citoyen. Surtout ceux qui demandent des services au niveau de l'administration.
Fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Nzamba à Tekakawe pour la production de ce journal. À toutes, à tous, merci de nous rester fidèles. Au revoir.